bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Iseut Sicard et Louis Drillon. À la réalisation Marie Placé, prise de son Inès De Bruyne.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Bessery.
Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre série consacrée au modèle de gestion et d'organisation de quelques géants économiques. Nous avons commencé cette semaine au Japon, dans les usines Toyota, dont les méthodes ont marqué la production automobile de la seconde moitié du XXe siècle. Puis nous avons suivi le réseau de franchises qui a permis au géant McDonald's de s'implanter jusque dans les interstices de la mondialisation. Nous avons ensuite tracé les grands traits du modèle logistique qui a fait le succès d'Amazon sur les territoires mondialisés de la toile. Trois histoires, trois exemples de la puissance phénoménale qu'ont pris les entreprises sur le terrain de l'économie mondialisée. Trois histoires qui nous interrogent aussi sur la capacité des États, vieux acteurs de cette gouvernance, à peser encore sur le cours de l'économie. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler des multinationales et des limites de leur pouvoir en compagnie de Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation, réalisatrice et auteure notamment de l'ouvrage « Le Roundup face à ses juges » aux éditions La Découverte. En compagnie également de Thomas Clay, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, co-auteur avec Loïc Cadier de l'ouvrage « Les modes alternatifs de règlement des conflits » publié chez Dalloz. Et enfin, en compagnie de Jean-Philippe Robet, avocat d'affaires au barreau de Paris et de New York et auteur du « Temps du monde de l'entreprise, globalisation et mutation du système juridique, également aux éditions Dalloz. À 14h50, Arjuna Andrade sera comme toujours parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. À tous les trois, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors d'abord, à l'origine des relations internationales, c'était quand même les États qui étaient au centre. Alors comment est-il possible qu'ils se retrouvent comme ça concurrencés ? On a parlé de puissance économique, il y en a d'autres, Thomas Clay. Petit état des lieux.
Alors si vous me demandez un historique des relations internationales et de rapport de force, puisque c'est ça au fond la question que vous posez, c'est le rapport de force entre les États et les entreprises, est-ce que ce rapport de force s'est inversé ? Et est-ce que certaines entreprises sont en mesure d'imposer leur vue, qui est en général animée uniquement par la recherche d'un profit, à l'égard d'États qui, eux, sont là pour la défense de l'intérêt général ? Incontestablement, dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire la résolution des conflits internationaux, il arrive que l'entreprise, la multinationale, soit plus puissante que l'État, ce qui crée un déséquilibre au niveau de la résolution du conflit. C'est-à-dire que l'État se retrouve paradoxalement en position d'infériorité matérielle, d'infériorité juridique, d'infériorité contentieuse à l'égard d'une multinationale, ce qui peut biaiser effectivement la solution du litige. Ça ne veut pas dire qu'il faut combattre contester l'existence même de l'arbitrage comme mode de résolution des conflits. Au contraire, je pense que l'arbitrage reste et demeure la seule solution envisageable pour résoudre les conflits. Mais il faut faire en sorte que l'État ne soit pas structurellement désavantagé par rapport à une multinationale qui voudrait lui imposer ses vues.
Marie-Monique Robin, c'est vrai qu'on a tendance à faire cet état des lieux en disant d'un côté il y a les États, l'intérêt général, et de l'autre les entreprises et les profits. Mm-hmm. Mais les États aussi ont besoin d'une croissance économique et ont aussi des intérêts économiques, besoin de se rendre d'une certaine manière attractifs. Eux-mêmes sont en concurrence entre eux. Alors est-ce que cette division théorique que l'on fait entre les États et les entreprises est réellement pertinente ?
Alors moi, dans le domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est donc celui des produits chimiques qui contaminent l'environnement, depuis le champ.
Vous avez travaillé beaucoup sur Monsanto.
Alors, Monsanto, le monde selon Monsanto, notre poison quotidien qui était un film, un livre à chaque fois. Enfin, donc, tous ces produits qui contaminent notre environnement, on estime qu'il y en a 100 000 qui ont été mis sur le marché après la Seconde Guerre mondiale. J'ai noté une rupture évidente, très claire, à partir de l'avènement de M. Reagan au pouvoir aux États-Unis. Et notamment, à travers l'histoire de la Food and Drug Administration, la FDA, qui, jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir, je rappelle, c'est en 1981, était censé œuvrer pour l'intérêt général et faisait un bon boulot. D'ailleurs, on a longtemps gardé cette image, moi-même, quand j'ai commencé à travailler sur Monsanto 10 ans plus tard, cette image d'une agence, vous savez, qui faisait vachement bien son boulot et que si la FDA avait autorisé un produit, c'est que tout avait été fait pour vérifier que ce produit n'était pas dangereux pour l'environnement ou les êtres humains.
C'est l'idée de l'organisation impartiale, extérieure, experte.
Voilà. Mais ça s'arrête, mais très clairement, à partir de l'arrivée de Reagan, qui n'a qu'un mot en bouche, il a déréglementation, et ça aura des conséquences énormes. Déréglementation dans tous les domaines, qui va être aussi bien l'industrie, donc la FDA ne travaille plus, je fais court, pour l'intérêt général, elle travaille pour l'intérêt des multinationales et des fabricants de produits chimiques, en l'occurrence de ceux dont je parle, mais aussi c'est dans le domaine de la finance. Donc on va avoir une déréglementation qui va être le mot d'ordre, qui va gagner petit à petit l'Europe, 10 ans après, je fais aussi à grande ligne, et qui va faire que ces multinationales qui avant étaient soumises à un processus de réglementation quand même qui fonctionnait plus ou moins bien, mais qui voilà, eh bien vont petit à petit s'infiltrer dans tous les organismes de réglementation, y compris dans les gouvernements où elles ont des relais. Et je pense que la date de 1981, l'administration Reagan, ça a été une date absolument capitale dans l'évolution du rapport entre les multinationales et les États.
Jean-Philippe Robé, en dehors des questions d'évolution des relations internationales et de leur paradigme, on voit qu'on a parlé du tournant libéral des années 80, des effets peut-être que ça a eu aussi en matière politique, économique et d'influence réciproque. Il y a aussi la question de la structure juridique des multinationales et des entreprises qui a changé.
Bon, je pense que c'est important, comme vous avez commencé à le dire, de regarder l'historique des relations entre les très grandes entreprises et l'État. Parce que c'est une histoire ancienne, d'une certaine manière. Les plus grandes multinationales relèvent du passé. C'était les compagnies des Indes orientales, qui étaient le bras armé de l'État, pour étendre le pouvoir de l'État au-delà de ses frontières. Elles avaient le pouvoir de battre monnaie, elles avaient le pouvoir de déclencher des guerres. Donc c'était des organisations qui étaient pas du tout perçues comme quelque chose de privé, mais beaucoup plus comme quelque chose de public. Et c'est avec l'avènement de l'État et d'une culture, une société plus libérale, qu'on a eu cette différenciation qui s'est faite entre, d'un côté, un secteur public, celui de la norme commune, le domaine du bien commun, et celui du privé et de l'intérêt particulier, avec un rôle important joué par l'État pour ce que les économistes appellent internaliser les externalités négatives, donc prendre en compte ce qui n'est pas pris en compte par le marché, et corriger les inégalités. Or, tout cela, par le fait de la globalisation et aussi par le fait de la déréglementation, qui est la conséquence des analyses des économistes dits néoclassiques, a abouti à ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire une perte d'influence de l'État qui a redonné une grande puissance à l'entreprise qui, du coup, se déplace du domaine privé vers le domaine public.
Alors tout ça s'est fait très progressivement. C'est vrai que l'entreprise de la révolution industrielle, c'est plutôt la société en commandite par action, donc avec des dirigeants qui dirigent d'un côté, des financiers qui financent et qui n'ont pas nécessairement leur mot à dire sur ce qu'il se passe. Alors quel glissement a pu s'opérer progressivement et dans quels interstices juridiques ont pu se glisser aussi les entreprises ?
C'est une histoire fascinante et assez peu connue. Il faut comprendre que le droit des sociétés par action, si on prend le cas de la France, date en fait de 1807, pas du tout de 1867 comme on veut le dire, dans le premier code de commerce qui a été le nôtre. Mais pour créer une société par action, il fallait obtenir une autorisation par décret en Conseil d'État. Et le Conseil d'État a développé une jurisprudence selon laquelle le privilège de la société par action n'était accordé que s'il y avait un motif, un intérêt public. L'idée qu'on puisse créer une société par action pour des intérêts privés était totalement saugrenue à l'époque. Mais c'est par l'effet de la concurrence entre États, du fait du développement du libre-échange, que progressivement le droit des sociétés par action s'est libéralisé. D'abord aux États-Unis, parce que le droit des sociétés est une compétence des divers États, avec un État fédéral qui assure l'existence d'un marché unique. Donc les États se faisant concurrence, bien le droit des sociétés s'est progressivement libéralisé. Et en Europe, à compter du deuxième tiers du 19e siècle, des traités bilatéraux de libre-échange se sont mis en place et dans la foulée, le droit des sociétés par action s'est libéralisé. À partir de ce moment-là, on va permettre des concentrations de capitaux colossales dans des entreprises, entre guillemets, privées, qui vont avoir le moyen d'être éternelles et de profiter des prérogatives qui, initialement, étaient déterminées pour des individus, des personnes physiques, des êtres de chair et de sang qui disparaissent, qui ont des héritiers, toutes ces prérogatives se retrouvent concentrées dans des organisations privées éternelles.
Thomas Clay, à partir de quel moment, justement, les États ne sont plus devenus les seuls acteurs du système international, en tout cas, se sont retrouvés à égalité avec des structures émanant du privé, des structures économiques?
Oui, je vais vous répondre tout de suite, mais peut-être pour prolonger ce qui vient d'être dit, parce qu'après tout, moi aussi, je suis juriste, il y a incontestablement une hybridation des modèles de forme sociale, juridique des différentes sociétés, et qu'on est passé effectivement soit de la société personnelle, soit de la société par action, type SARL, qui date quand même de 1925 en France, à des sociétés de plus en plus complexes, avec des modèles finalement de plus en plus hybrides, et aujourd'hui on a des sociétés par action qui sont unipersonnelles, ce qui est un non-sens mais qui existe. On a une démultiplication des différents modèles, ce qui est le creuset de cette financiarisation que vous, sur laquelle vous nous interrogez en filigrane, parce que c'est parce qu'il y a tous ces modèles différents qu'on arrive à créer ces systèmes, et notamment, vous ne l'avez pas dit, mais qui revient à cela, c'est-à-dire de remonter de la fiscalité. C'est ça le sujet, j'ai l'impression, que vous
alors,
êtes en train d'évoquer.
L'un des grands sujets, ça va être effectivement que peut la structure étatique, finalement assez lourde, assez rigide aussi, hein, contrainte, Marie-Monique Robin, face à des entreprises qui, elles, peuvent combiner tous les modèles possible avec des filiales, une déterritorialisation.
Exactement, c'est ça.
Alors, vous savez, moi, j'étais la marraine d'un tribunal qui était spécial, qui s'appelait le tribunal international Monsanto, organisé par la Société civile internationale, qui s'est tenu à La Haye, qui est une ville évidemment symbolique, où il y a deux instances de justice à portée universelle, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Dans notre collectif qui a donc créé ce tribunal qui s'est tenu en octobre 2016. Il y avait Corinne Lepage qui a beaucoup travaillé sur ces questions, Olivier de Schutter, juriste qui était l'ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Et nous sommes partis d'un constat, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un problème qui est un déficit d'outils juridiques qui permettent de traîner, enfin, ou de condamner, ou de, en tout cas au pénal, les dirigeants des multinationales qui sont coupables de crimes contre l'environnement. D'où ce grand mouvement international qui voudrait voir émerger un nouvel outil juridique qui est l'écocide, hein, qui est le crime contre les écosystèmes, et qui pourrait être le cinquième crime dépendant du mandat de la Cour pénale internationale. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les États n'ont absolument aucun moyen de stopper les activités nuisibles de multinationales, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on continue de faire porter à la société, et donc aux États d'ailleurs, les externalités négatives qui sont gérées par l'activité de ces multinationales.
Alors ça, il faut peut-être expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que les entreprises ne paient pas nécessairement pour des dommages environnementaux, par exemple, voilà, qui sont produits par leur activité.
Oui, alors je donne souvent un exemple qui est très facile à comprendre, qui est aussi un domaine que je suis très près. Quand on parle, vous savez, des nitrates qui polluent les nappes phréatiques et qui finalement vont provoquer des algues vertes en Bretagne, eh bien, c'est à nous, la société, hein, de payer pour la dépollution des plages, etc., et de l'eau, parce que les nitrates, c'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas aux agriculteurs qui pratiquent une agriculture très intensive de payer pour ça, par exemple. Hein. Bon. Et donc, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui? C'est on s'estime victime d'une multinationale comme Monsanto, parce que, par exemple, on est malade. Vous savez, moi, j'avais révélé l'histoire de Paul François, cet agriculteur de Charente, qui a été intoxiqué avec un herbicide de Monsanto, le Lasso, et qui a porté plainte contre Monsanto. Pendant l'affaire est en cassation, il a gagné en première instance, en deuxième instance. Il a créé Phytovictime, une association de paysans malades. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est comme Paul François, qu'on a le courage, l'argent, le temps, etc., et l'énergie de porter plainte? On peut au plus le faire au civil pour obtenir des réparations pour les dommages qu'on estime avoir subis. Mais on ne peut pas traîner au pénal les dirigeants des multinationales. Et dans le cas concret, il y a les différentes procédures, ça ne m'a pas surprise, hein, ont montré que Monsanto savait que ce produit était toxique, parce que l'intentionnalité, évidemment, pour que ce soit criminel, était très importante. Dans plein de cas, les PCB, l'agent orange, Monsanto savait que c'était toxique, a caché les données, a manipulé les agences de réglementation. Donc voilà, on est en face d'un vide juridique et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une demande de la société civile et de juristes, d'ailleurs, internationaux, n'est-ce pas, pour qu'enfin, on puisse avoir un outil juridique qui permette à la fois aux citoyens, mais aussi aux États, hein, de dire stop et de dire on peut vous traîner en prison, les dirigeants des multinationales. Parce que vous comprenez, et j'en terminerai avec ça, ce qui m'a beaucoup frappé dans l'affaire de Monsanto que je connais depuis 12 ans, c'est que la plupart des actionnaires de cette entreprise ne savent même pas qu'en fait, je vais vous donner un exemple, le troisième actionnaire de Monsanto en 2009, je n'ai pas vérifié aujourd'hui, c'était AXA. À chaque fois que je faisais une projection débat de ce film, les gens, je leur disais qui a chez AXA, et les gens levaient la main, ils étaient très surpris de savoir que finalement, peut-être que leur argent qu'ils avaient placé servait était chez Monsanto.
Alors donc, c'est à considérer que les États veulent avoir une action concrète et qu'il y a une sorte d'opposition entre les États et l'entreprise. Mais on peut aussi voir dans le monde du lobbying, dans le monde aussi même de l'action politique, des imbrications d'intérêts entre ceux des États et des entreprises, Thomas Clay.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que, comme ça vient d'être dit, au fond, avant que les États reprennent la main pour se renforcer par rapport à ces multinationales, il y a quand même d'abord une demande sociale qui est incontestable et qui pousse les États finalement à agir pour faire quoi ? Pour redevenir des États et pour redevenir la défense des intérêts généraux. Et pour reprendre l'évolution qu'on évoquait à l'instant sur cette déréglementation généralisée, cette possibilité de croiser les modèles pour finalement n'avoir que comme seul objectif la financiarisation et la remontée des bénéfices, eh bien, il y a quand même depuis quelques années, vous en avez parlé en filigrane, il y a l'idée du préjudice écologique qui est arrivé dans le Code civil il y a quelques années. Et puis, cette semaine, il y a le rapport Nota-Sénard qui propose d'ajouter à l'article 1835 du Code civil, je ne vais pas être trop technique, mais enfin, qui est l'article qui définit l'objet des sociétés, de manière générale, la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est quand même très nouveau. Ça veut dire qu'on bascule, on change de paradigme, en réalité. La société n'a plus pour seule vocation de faire des profits, mais elle a aussi pour vocation de faire des profits et de tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux. Et ça, c'est la demande sociale, et ça, c'est le réarmement de l'État par rapport aux multinationales. Je crois qu'on est au cœur de votre sujet.
Alors, si on en est venu, si on en est arrivé là, puisqu'on a parlé de déréglementation, c'est parce qu'à un moment donné aussi, c'est le mouvement de libéralisme économique qui a été internationalisé, mondialisé, généralisé. Est-ce que ce mouvement, finalement, d'évolution du capital a fait suivre toutes les relations internationales à sa suite.
Alors, ce que je crois, c'est qu'on est en face donc d'une mondialisation avec un principe économique généralisé qui est, comme vous venez de le dire, de faire remonter des profits à tout prix. Sauf que la nouvelle donne, si j'ose dire aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est que on est au pied du mur. Moi, je veux insister là-dessus parce que je pense que nous marchons collectivement vers un effondrement parce que le dérèglement climatique est absolument sous-estimé, à mon avis. L'extinction de la biodiversité, c'est pas rien. Je suis assez surprise d'entendre toutes les infos qu'on entend dans la maison ronde ici régulièrement. Vous faites votre boulot, je dis pas le contraire, mais d'entendre que peut-être il y a par exemple qu'il y a 50% des vertébrés qui ont disparu au cours des 40 dernières années, qu'il y aura peut-être plus de primates avant 2030 ou 2050, et puis il se passe rien. Je veux dire, c'est comme si nous n'étions pas nous-mêmes des cousins des primates, n'est-ce pas, enfin, ou des vertébrés. Donc c'est assez étonnant, mais je pense qu'il y a beaucoup de citoyens, et vous avez raison de noter que face à cette déficience de l'État, pour toutes les raisons qu'on vient d'indiquer, mais la société civile, elle, revendique, et le fait qu'il y ait plein de tribunaux citoyens qui se créent un peu partout, eh bien c'est aussi un signe de ça, c'est-à-dire la société civile pousse, et donc on est en face d'une situation très préoccupante, je pense, pour les générations futures, mais je ne parle pas pendant 3000 ans, je parle nos enfants, enfin, je suis mère de famille, moi. Et donc, pour l'instant, finalement, très peu de recours pour stopper la machine de destruction qui est en marche et qui est très puissante, parce que vous avez raison.
La machine de destruction, il faut peut-être qu'on la décrive. Jean-Philippe Robet, on parle de géants économiques, il y a ces termes un peu mythologiques qui sont utilisés pour parler des multinationales. De quoi s'agit-il exactement ? C'est pas simplement des entreprises qui existent partout dans le monde, c'est aussi des structures avec des filiales, c'est aussi des entreprises transnationales. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces géants ?
On peut en dire quelque chose que vous n'attendez pas, c'est que la machine de destruction, ce sont les États eux-mêmes. Ce sont les États qui se font concurrence entre eux. Ce sont les États qui offrent aux entreprises la possibilité de délocaliser leurs profits dans tel ou tel paradis fiscal. Ce sont les États qui permettent aux entreprises d'avoir des activités polluantes.
C'est la théorie de John Galbraith, le fils, qui dit que finalement, les multinationales sont dans l'État, déjà.
Bon, j'entends, mais ce n'est pas d'une théorie que je parle, c'est de quelque chose qui est vécu au jour le jour. Regardez l'Union européenne, quel est le loup dans la bergerie ? Donnez-moi son nom. Il s'appelle le
Luxembourg.
J'ai même pas eu besoin de le dire. Oui, on le sait tous. Donc, l'ennemi, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Il est public ou il est privé.
Est-ce qu'on pourrait dire, pour aller dans le sens de ce que vous dites, est-ce qu'on pourrait dire que paradoxalement, finalement, les États vont appliquer à eux-mêmes les règles des multinationales.
Mais, si vous voulez, c'est tout à fait le problème, et c'est aussi peut-être le début de la solution. Le problème, c'est que alors que les entreprises privées, de fait, ont un rôle qui devrait être de plus en plus public, compte tenu de leur pouvoir, les États, qui sont des institutions reconnues par tout le monde comme étant publiques, en fait, se comportent comme des acteurs privés sur un marché des normes. Et elles offrent sur le marché mondial des normes un menu à disposition des entreprises qui
Alors
se servent.
Alors ça, il faut éclairer ce point. Ça veut dire que c'est les systèmes juridiques qui rendent les territoires des États plus ou moins attractifs. Et c'est dans ces interstices-là que se glissent les multinationales.
Oui, il y a une compétition,
juridique.
Bien sûr,
entre les États.
Il y a une formule très, très belle d'Ulrich Beck, qui était un sociologue allemand décédé récemment, qui disait les États ont des racines et les entreprises ont des ailes. C'est beau, mais les États ont des racines, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Leurs frontières sont là où elles se situent. Les entreprises, elles, ont la possibilité d'aller à tel ou tel endroit en fonction de leur intérêt. Et si on considère, et on peut rejoindre le rapport Nota Sonar, qui est effectivement un rapport d'une très grande importance, si on considère que ce n'est plus aujourd'hui la norme de la maximisation des profits qui doit être à la base du fonctionnement des entreprises, que les entreprises doivent prendre en compte, doivent avoir égard aux impacts sociaux et environnementaux de leur activité, alors on leur donne un rôle différent de celui qu'elles ont aujourd'hui, du fait de cette théorie économique qui date des années Reagan, qui nous ont amenés où nous en sommes aujourd'hui.
Alors, on va continuer à parler de cette question, justement, des relations internationales autour de ces nouvelles structures que sont les entreprises, qui ne sont pas du tout des nouvelles structures, mais de relations internationales restructurées autour des multinationales. On va écouter Alain Deneau dans l'entretien de l'intelligence économique sur France 24 en parler.
Qu'est-ce qu'un pouvoir multinational ? Force est de comprendre qu'on est face à des pieuvres qui, du point de vue du droit international et du droit du commerce dans les différents pays, ne sont considérés que du point de vue du tentacule. C'est-à-dire que l'Iran, les États-Unis, le Myanmar, la Russie, le Canada, la France vont faire comme si, et c'est le cas en fait, du point de vue des logiques législatives et juridictionnelles, comme si ils n'avaient de prérogatives que sur le tentacule qui se meut dans leur
territoire,
oui,
de souveraineté.
Exactement,
ouais.
Là où ils ont des prérogatives, sans être jamais capable de remonter, je dirais, à l'échelle du cerveau. Et c'est comme si... Au fond, on est face à des puissances, et c'est vrai pour Microsoft, c'est vrai pour Monsanto, c'est vrai pour Boeing, c'est vrai pour toutes les firmes qu'on peut imaginer de cette envergure. On est face à des pouvoirs qui existent sous une forme fragmentée, qui pèsent de tout leur poids, pays par pays où on les trouve, mais dans des législations qui sont, elles, jamais capables de légiférer à l'échelle sur laquelle ce pouvoir se déploie, c'est-à-dire le monde.
Alors, on entendait Alain Deneau, interviewé par Ali Laïdi sur France 24. Alain Deneau, qui est membre du Collège international de philosophie de Paris et qui s'attaque à Total dans un livre qui s'appelle « De quoi Total est-elle la somme ?». Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Thomas Clay, de cette question de l'échelle, finalement ? Aucune échelle n'est pertinente face aux multinationales qui sont géantes et en même temps glissées un peu partout.
C'est une question de rapport de force. Il faut que l'État se réarme, et s'il est insuffisant à agir lui-même, seul, il faut qu'il crée des alliances avec d'autres États, et ce qui vient d'être dit, je le partage tout à fait, c'est-à-dire qu'une alliance comme l'Union européenne est sur le papier une alliance absolument exceptionnelle pour lutter contre des multinationales, à la condition qu'elle soit homogène, à la condition qu'elle soit convergente, à la condition qu'il n'y ait pas de concurrence interne, notamment sur les règles fiscales et sur les règles sociales, et qu'il n'y ait pas une concurrence au moins 10 ans pour être le plus attractif finalement à l'égard de ces multinationales qu'on veut attirer chez soi, alors même qu'une fois qu'elles sont entrées à l'intérieur, elles vous empêchent d'avoir une politique homogène et de défense des intérêts publics. Donc c'est effectivement l'échelon pertinent, c'est probablement le regroupement d'États. Mais là on parle de ce que nous connaissons le moins mal, c'est-à-dire l'Europe. Mais moi,
on pourrait aussi parler de des organisations plus larges, on pourrait parler de l'ALENA, on pourrait parler d'autres organisations.
Oui, mais même, pensons à des pays auxquels on ne pense pas spontanément quand on parle de guerre économique, comme l'Afrique. les pays africains. Il se trouve que j'étais au Burkina Faso il y a 15 jours. Incontestablement, un pays comme le Burkina Faso est un pays qui ne peut pas faire face à une multinationale. Donc il a besoin de s'allier. Il a besoin de s'allier pour pouvoir justement faire respecter des règles qui précisément ont pour but de défendre l'intérêt collectif, l'intérêt général par rapport à l'intérêt privé, parce que l'entreprise, même si le paradigme change et même si elle a intérêt, même cyniquement d'ailleurs, à prendre de plus en plus en compte les intérêts de la société, reste une entreprise, reste un objectif de profit à court terme pour ses actionnaires.
Jean-Philippe Probé, j'ai une question un peu naïve, mais est-ce que le poids des géants, en tout cas l'influence, le pouvoir de ces géants économiques vient vraiment de leur taille et de leur chiffre d'affaires? Il y a eu des chiffres qui avaient fait un peu le tour du monde, hein, publié en 2000 dans le cadre d'une étude de l'Institut for Policy, qui avait dit que justement parmi les 100 plus grandes économies mondiales, 51 sont des entreprises et 49 sont des État, c'est-à-dire qu'on a des multinationales comparables à des entreprises supérieures à des États.
Oui, bon, les chiffres permettent de faire des comparaisons. Maintenant, on compare un peu des poires et des carottes, parce qu'on compare des chiffres d'affaires d'un côté et des PIB de l'autre. Donc ce sont des choses radicalement différentes.
Donc est-ce que ça a du sens de dire ça, de dire est-ce que c'est vraiment le poids économique qui fait la force?
Ça n'a pas vraiment de sens de d'utiliser ces comparaisons-là. Mais c'est quand même, malgré tout, le poids qui fait la force. Si vous voulez, de toute façon, on le voit bien, dès qu'un chef d'État se déplace avec son jet pour aller faire une visite d'État quelque part, il a derrière lui, dans l'avion, les dirigeants des plus grandes entreprises locales. Si vous voulez, il y a des alliances qui se font entre les États et les entreprises, leur État d'origine, souvent, qui d'ailleurs sont défaites l'instant d'après, si c'est l'intérêt de l'entreprise, qui font qu'effectivement, vous n'avez pas le menuisier du coin de la rue qui est dans l'avion. C'est bien les très grandes entreprises qui sont importantes, parce que sont elles qui peuvent décider de très gros investissements, donc de création de très grandes quantités d'emplois, et donc on se concentre sur elles, parce que tout simplement, elles ont cette puissance économique. Elles ont aussi une chose comparable avec l'État, c'est la durée. Si vous voulez, nous, personnes physiques, on va tous disparaître un jour ou l'autre. Certaines entreprises, potentiellement, peuvent durer pour toujours, grâce aux instruments juridiques qui existent aujourd'hui.
Ça mériterait aussi peut-être un peu d'être explicité. Les modèles de configuration des entreprises sont infinis, de par les montages juridiques et économiques que l'on peut faire.
Oui, il n'y a pas deux entreprises au monde qui soient structurées de la même manière. Elles utilisent toutes les mêmes instruments, la société commerciale, des contrats, mais la configuration des divers types de sociétés en fonction des localisations, de l'activité, de l'intérêt de tel ou tel État en fonction de l'activité, tout ça dépend évidemment de chaque cas particulier.
Et donc de cette configuration très protéiforme dépend aussi leur influence, que c'est un grand pouvoir que de pouvoir sans cesse se modifier, sans cesse se restructurer, sans cesse déménager.
Exactement, se réadapter en permanence, se reconfigurer, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'on parle des entreprises comme si elles existaient comme de grands individus, comme si Total, comme si toutes les entreprises qui ont fait l'objet de nos discussions avaient une existence en tant que telle, alors qu'en droit, ce n'est pas le cas. Vous avez bien la République française qui existe en droit comme État, mais vous n'avez pas en France une entreprise comme Total, par exemple, puisque le nom a été donné, qui existe en tant que personne morale. Total est faite de dizaines, de centaines, peut-être de milliers de filiales, je ne connais pas Total particulièrement, qui sont localisées dans des États différents, qui chacune ont la nationalité de l'État où elles sont implantées, qui ont des relations avec les autres entités du groupe, qui dépendent du contenu de contrats, etc. Donc, il y a toute la complexité du groupe qui est, d'une certaine manière, invisible et qui lui donne une capacité adaptative tout à fait considérable.
Thomas Clef...
Et qui fait qu'il est très difficile de, entre guillemets, lutter contre elles, de les réguler, de les réglementer, parce que ce sont des objets qui sont en changement permanent.
Et si on les regarde de cette manière, on se dit que d'un point de vue macroéconomique, elles sont bien plus armées que les États pour justement se glisser dans un système extrêmement mondialisé. Et ouvert, surtout.
Alors, ça dépend si on parle de l'État qui est l'entité destinée à promouvoir l'intérêt général ou de l'État qui est lui-même opérateur économique.
Est-ce qu'on peut vraiment distinguer ces deux facettes
de
l'État?
Oui, parce que lorsque l'État est opérateur économique, il est un opérateur économique comme les autres. Il doit accepter les jeux de le jeu de la mondialisation.
Quand il négocie ses contrats,
et surtout quand il arrive dans la phase contentieuse, et notamment ces fameux arbitrages qu'on a un peu ici ou là décriés, souvent par ignorance ou par confusion, qui sont un dispositif sans lesquels, d'ailleurs, les investisseurs n'investiraient pas. On n'investit pas dans un État si on n'est pas certain ensuite de se retrouver devant une justice indépendante et impartiale. Donc, l'État, opérateur du commerce international, doit accepter les jeux du commerce international et ne doit pas, par exemple, faire jouer ses prérogatives de puissance publique, sa possibilité de dévaluer sa monnaie qui va dévaluer effectivement l'investissement international, le changement de législation, l'expropriation. Tout ça sont des choses qu'il n'a pas le droit de faire jouer, y compris d'ailleurs les immunités d'exécution. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas dire, non, j'ai perdu d'accord, mais vous ne pouvez pas exécuter sur mon patrimoine commercial. Sur mon patrimoine diplomatique, bien sûr, mais pas sur mon patrimoine commercial. Tout ça, ce sont des règles qui s'imposent à tous les opérateurs économiques, qu'ils soient État ou multinationales. Et c'est comme ça qu'il faut que ça marche, parce que sinon, il n'y a pas d'investissement.
Si j'avais su rester de place, se fondre dans le décor. Moi, j'aurais voulu, si j'avais pu effacer sa trace et enterrer le corps. Mais dehors il faisait si bon, tu t'en souviens encore comme les jours étaient longs. Et c'est bien connu, les uns déçus, les autres se lassent. Ce gonfle de remords. Moi j'aurais voulu, si j'avais pu changer de place, déjouer.
Écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Besserie.
Tu es assistant parlementaire depuis 2 ans. Il t'en reste un et tu passes ensuite dans l'autre camp. T'as toujours rêvé de devenir lobbyiste. Tu étudies à l'ENA et tu rêvais déjà. T'as pris le chemin classique, stage au Parlement, stage à la Commission, assistant parlementaire, Commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire. Ça cartonne. Jean-Michel. C'est un des plus gros lobbies du marché et c'est là que tu voudrais rentrer. T'as déjà commencé à négocier ton changement de statut. Si vous arrivez à bloquer la loi, tu commences dans 1 an à un salaire 10 fois supérieur à tes revenus actuels. Ta femme est très contente. Tu joues le jackpot.
Alors 10h30, ta députée arrive. 11h, pause café avec les autres assistants au bar du Parlement. Alors là, tu peux faire ton lobby dissimulé parmi tes compagnons.
L'assistante norvégienne d'un député écologiste s'énerve un peu contre toi en te rappelant les chiffres. 1 Européen sur 3 est obèse ou en surpoids. Très vite, vous vous divisez en 2 camps. Toi, tu prêches les résultats d'une étude scientifique bidon qui dit que les consommateurs perçoivent correctement les étiquettes actuelles, mais tu sais très bien qu'elle a été financée par les industriels.
Non mais pourquoi porter à la confusion ? Le consommateur est déjà paumé dans l'offre accablante de produits. Et il va avoir mal à la tête quand il verra d'autres étiquettes sur les emballages de sa nourriture préférée.
Tu sais parler. Tu parles bien. Tu prends les mots des autres, mais tu te les appropries parfaitement. qui voilà. pourrait douter de toi.
C'est un extrait de la fiction diffusée sur France Culture Europe Connection d'Alexandra Badea, réalisée par Alexandre Planck et diffusée le 27 février dernier. Marie-Monique Robin, qu'est-ce que l'on peut dire justement de ces interstices aussi du pouvoir et de cette endogamie que l'on peut observer parfois entre un univers industriel, un travail de lobbying qui est fait aussi dans les coulisses du Parlement de Bruxelles par exemple, mais aussi partout ailleurs?
Je pense que, d'une manière générale, quand même, enfin, tout ça n'est pas tombé du ciel. Hein. Je voudrais quand même... la perte de pouvoir des États et tout, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ça vient de décisions politiques qui ont été prises. Moi, j'ai nommé Reagan parce que j'estime vraiment que c'est une grande rupture. Après, il y a eu Mme Thatcher, puis il y a eu Bush, et puis il y a eu toute l'Europe qui a suivi.
Et Macron
qui... Alors, bon, écoutez, en tout cas, on n'est pas dans une rupture, ça c'est moins qu'on puisse dire, hein, voilà. Et qui a fait que, d'un côté, on a des entreprises de plus en plus puissantes, dont les intérêts sont protégés par toute une série de mécanismes, et surtout dans le cadre des accords de libre-échange. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'ALENA, hein, l'accord de libre-échange nord-américain, où j'ai raconté comment Monsanto faisait partie des multinationales qui ont écrit cet accord, et qui sont les principales bénéficiaires de l'accord de l'ALENA, des entreprises.
Alors ça, il faut
Monsanto.
Y revenir dès les débuts. Hein. Vous parlez de ce tournant des années 80 et de Reagan. Dans votre film Le Monde selon Monsanto, justement, il y a cette visite au siège de Monsanto par George Bush, qui est alors vice-président, qui justement montre aussi à quel point ensuite la politique va être décidée en fonction des intérêts de Monsanto.
Ah non, mais c'est même incroyable, c'est une roche, enfin c'est des roches, comme on dit dans le jargon, totalement incroyable, hein, c'est-à-dire ça a été tourné par, c'est par une caméra de l'AFP, mais à l'époque, vous voyez, il est en campagne Bush, donc on est à la fin des années 80, hein, vous voyez, donc, et moi j'ai réussi à avoir accès à ces archives absolument incroyables, où on voit carrément comment Monsanto, les dirigeants de Monsanto, menace Bush. Hein. C'est tout ça pour le contexte, c'est d'obtenir le plus rapidement possible l'autorisation de mettre sur le marché les OGM, en fait, hein, c'est ça l'enjeu. Et c'est absolument hallucinant. Ce que je voulais dire pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que d'un côté, donc, c'est les droits commerciaux des multinationales sont très bien protégés, notamment dans le cadre d'accords de libre-échange qui sont faits, à mon sens, et je parlais de l'ALENA, mais c'est pareil pour le TAFTA, etc., le CETA, dans une très grande opacité où on s'arrange bien pour que les citoyens ne soient pas au courant, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, on ne sait même pas qui négocie, etc. Et puis les droits humains dont les États devraient se porter garant, hein, pour les défendre. Et là, on voit très clairement qu'il y a, dans l'avis juridique rendu par les juges du tribunal international Monsanto, qui était présidé par la juge Françoise Tulkens, qui est la ex-vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont rendu un avis juridique très fondé. Ils soulignaient le gap, comme on dit en anglais, le fossé entre ces deux droits, enfin les droits des entreprises et les droits humains sous toutes leurs formes, et en disant d'un côté des droits extrêmement protégés et de l'autre des États incapables de faire appliquer des conventions internationales, etc., etc., et qui en plus prennent des décisions qui encouragent toujours plus, dans le même sens, la protection des entreprises au détriment de la protection des droits humains.
Alors Thomas Clay, vous nous parliez de ces deux rôles de l'État, l'État d'abord acteur économique d'un côté, puis de l'autre dans son rôle de protecteur de l'intérêt général. Mais est-ce que parfois il n'y a-t-il pas des petites confusions entre ces diverses casquettes de l'État et des intérêts convergents? On voit c'est quand même cette force de frappe du lobbying, on voit aussi cette omniprésence d'acteurs importants des multinationales dans tous les lieux de pouvoir.
Vous avez absolument raison. L'extrait qu'on vient d'entendre est une caricature tout à fait choquante. Évidemment, c'est stupéfiant d'entendre ça, parce que je suis sûr que c'est tiré d'expériences réelles, et en particulier au Parlement européen. Au Parlement français, le lobbying a quand même été maintenant encadré par la loi de moralisation de l'été 2017. Mais au Parlement européen, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est d'ailleurs tout à fait singulier que la Commission européenne soit située dans une rue qui s'appelle la rue de la loi à Bruxelles. Mais pour répondre plus précisément à votre question, oui, effectivement, je pense qu'il y a bien deux missions. Non, il y a une seule mission, mais qui s'exerce de deux manières différentes pour l'État. L'État protecteur de l'intérêt général, l'État dans sa fonction régalienne, avec ses missions de défense, ses missions de diplomatie, etc. Et puis l'État acteur économique. Mais l'État acteur économique ne doit être acteur économique que dans la poursuite de l'intérêt général. C'est évident. Il ne doit pas l'être dans la poursuite d'intérêts particuliers, de lobby, ou d'entreprise, ou d'amis, ou d'affidés, ou de clientèle politique ou fiscale. L'État ne doit être, y compris dans sa mission économique, que l'agent de l'intérêt général et Pour cela, il utilise l'activité économique pour tout le monde.
Alors, il y a une question qui a commencé à être évoquée tout doucement, c'est la question des sanctions juridiques, la question des dommages et des juridictions compétentes. Je vous propose d'écouter l'éclairage de Manuel Ruffès dans le journal de 13h de France Inter du 19 août 2014.
Ce type de dispositif existe déjà, il est inscrit par exemple dans l'accord de libre-échange qui lie les États-Unis, le Canada et le Mexique. À l'origine, il est censé protéger les entreprises qui investissent dans des pays peu sûrs à la législation fluctuante, les protégeant en particulier des risques d'expropriation arbitraire. Mais demain, il pourrait donc s'appliquer chez nous. En quoi cela consiste ? Une entreprise investit dans un pays, pour une raison ou pour une autre, ce pays modifie sa réglementation. Si l'investisseur en question estime que ces nouvelles normes ou lois nuisent à ses profits, il peut alors attaquer l'État en question et lui réclamer des dommages et intérêts. Tout cela devant des tribunaux arbitraux privés, les multinationales craignant la partialité des juridictions locales. Résultat par exemple, ce cas très emblématique d'un pétrolier américain qui réclame des centaines de millions de dollars au Québec pour avoir imposé un moratoire sur l'exploration du gaz de schiste, annulant ainsi des permis déjà accordés.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Philippe Robet ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ces arbitrages, est-ce que les accords de commerce prévoient que les litiges entre État et entreprises soient traités justement par des tribunaux ad hoc ? Ou est-ce qu'on assiste effectivement à des situations un peu rocambolesques dans lesquelles il y a effectivement des groupes qui poursuivent des États pour les décisions qu'ils ont pu prendre ?
Alors on a un expert bien mieux placé que moi pour
en
répondre.
En tout cas pour le Québec, moi j'y étais il y a 3 semaines, l'histoire qui vient d'être citée a été de nouveau présenté lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein.
Mais donc, il n'y a aucun doute sur quoi
sur le fait que le Québec, qui avait donc décidé d'un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste, a été donc menacé, et puis même il y a eu une plainte déposée, au nom de l'ALENA, hein, donc auprès de cette cour arbitraire privée, de rupture de l'ALENA.
Arbitrale, pardon.
arbitraire, vous voyez.
Au nom de cette cour.
Oui, bien sûr, et bien de violer l'accord de l'ALENA.
Et alors, quel est le résultat ?
Ben, c'est pas terminé, c'est ce que j'ai entendu il y a 3 semaines.
C'est intéressant parce qu'on ne parle jamais du résultat. Moi, je vais vous donner un exemple qu'on donne de manière systématique quand on veut essayer de stigmatiser par ignorance le plus souvent les tribunaux arbitraux. On nous dit, la législation sur les paquets neutres, qu'on a connu d'ailleurs en France aussi, a fait l'objet d'un arbitrage en Australie, où Philip Morris a attaqué l'Australie en disant...
Vous parlez du tabac, là, les paquets de tabac.
Voilà, des paquets neutres de tabac. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les paquets neutres, ça nous fait une perte importante pour notre commerce de cigarettes en Australie. On donne ça toujours comme exemple, comme d'ailleurs l'exemple du Québec, mais on oublie de dire une chose toute simple, c'est que l'investisseur peut bien se plaindre contre l'État, mais à la fin, il perd devant les tribunaux arbitraux. L'affaire australienne s'est soldée par un échec retentissant de Philip Morris, comme ce sera la même chose au Québec.
On verra, pour l'instant, ça fait quand même 3 ans que ça dure, c'est même assez surprenant de voir ça, hein, parce que c'est quand même censé être des cours qui travaillent assez rapidement.
Vous, madame, vous admettrez qu'un investisseur a le droit de faire une demande en justice, mais elle a le tribunal qui est saisi a le droit de la rejeter. Oui, et on confond souvent, et on agite comme épouvantail, les milliards qui sont invoqués au nom de demande en justice, en oubliant de préciser qu'elles sont rejetées avec des pénalités pour celui qui a fait cette action téméraire.
Alors, il y a plusieurs actions en cours. Hein, le 30 mai 2011, le gouvernement allemand a décidé aussi de fermer les réacteurs nucléaires en réaction à la catastrophe de Fukushima. Et il y a eu aussi le groupe suédois Vattenfall qui a intenté un procès à l'État fédéral et qui a réclamé une indemnité au nom des investissements faits dans ces centrales. Alors, ça peut paraître quand même surprenant de l'extérieur de se dire les entreprises peuvent finalement mettre en cause les décisions des États pour des raisons économiques.
Elles peuvent tenter de les mettre en cause. Lorsque vous faites un investissement dans l'état d'une législation qu'on vous garantit pérenne, et qu'au moment où vous faites cet investissement, et puis tout d'un coup on vous dit « non, la législation change, vous avez perdu votre investissement ». Il n'est pas inacceptable que l'État décide d'agir, alors qu'il le fasse d'ailleurs devant les tribunaux étatiques de l'État local, que la multinationale décide d'agir, soit devant les tribunaux locaux nationaux, soit devant le tribunal arbitral, ça ne change rien en réalité. Simplement, la différence, c'est que le tribunal arbitral, il va être neutre sur le plan politique, juridique et culturel.
Vous n'êtes pas d'accord.
Suis arbitre depuis 20 ans, je fréquente les tribunaux arbitraux depuis 20 ans, et je peux vous dire, y compris sur ces questions d'investissement, parfois je suis nommé par les États, parfois je suis nommé par les investisseurs, et j'observe que les tribunaux arbitraux sont neutres et indépendants des parties qui les ont nommés. C'est comme ça que ça se passe. Il y a eu quelques dérives, ici ou là, notamment en France, sur des affaires qui n'ont rien à voir avec l'investissement, et on peut parler de l'affaire Tapie si vous le voulez, mais sur le plan du fonctionnement des tribunaux arbitraux, on a des tribunaux arbitraux qui sont indépendants, qui sont impartiaux et qui statuent, et d'ailleurs qui la plupart du temps rejette ces actions qui sont effectivement malvenues. Reprocher à un État de changer sa législation, si c'est une législation qui, par exemple, va dans le sens d'une amélioration de la santé publique ou de l'environnement, eh ben,
ou de mesures de sécurité.
Alors, je ne veux pas trop prononcer parce que j'ai actuellement un dossier de cette nature pour l'Espagne, puisque l'Espagne a changé sa législation en matière de justement d'énergie solaire et elle est attaquée par un certain nombre de d'investisseurs qui disent mais moi j'ai mis quand même beaucoup d'argent là-dedans, comment je fais aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'il y a des questions, mais les tribunaux arbitraux, faut pas les rejeter en tant que tels. C'est une erreur de faire ça. Parce qu'ils fonctionnent bien et je vais vous dire autre chose. J'en termine par là. S'il n'y a pas de tribunal arbitral, il n'y a pas d'investissement. Quand le Louvre décide de s'implanter à Abu Dhabi, pour prendre un exemple classique, enfin récent, eh bien, il ne s'investit pas, il n'ira pas à Abu Dhabi s'il n'a pas une clause d'arbitrage en cas de litige avec Abu Dhabi.
Marie-Monique Robin.
Non, moi je parlais surtout des accords de libre-échange que je suis d'assez près.
Moi aussi.
Oui, mais j'imagine. Hein. Mais voilà, moi, c'est pas certains accords. Ce qui est très clair, et je suis d'accord avec ceux qui critiquent ces accords qui ne sont pas encore signés d'ailleurs, hein, donc, comme le TAFTA par exemple, mais c'est l'opacité. C'est le fait que derrière, parce que pour l'ALENA, j'ai passé 6 mois sur l'ALENA à bien comprendre qui avait mis en place les textes, etc. Et ce sont les multinationales. Et qui sont soit mexicaines, alors pas uniquement américaines, hein, parce que maintenant, avec la mondialisation, vous pouvez être une multinationale mexicaine qui a autant d'intérêt économique qu'une multinationale américaine. Hein. Donc, ça n'a bénéficié, y compris les instances de litige qui sont comprises dans l'ALENA, ça ne bénéficie et ça n'aura. Co-multinationale, ça ne...
Mais ce n'est que ça, madame.
Alors, bah, écoutez...
Mais regardez les sentences. 66% des sentences sont favorables aux États. Donc c'est inexact. Mais... Ça, c'est du fantasme. Et alors, c'est vrai qu'on ne combat pas, des fantasmes avec des chiffres, mais c'est du fantasme. Les décisions arbitrales ne sont pas favorables aux multinationales.
Non, mais on peut imaginer que si elles sont neutres, elles peuvent être favorables à l'un ou à l'autre en fonction de ce qui est discuté.
Bien sûr.
Donc,
mais statistiquement,
c'est pas forcément pertinent non plus de dire qu'elles sont favorables aux États.
Je vous parle des statistiques existantes. Ces accords de libre-échange, vous parlez du TAFTA, c'est-à-dire l'accord entre les États-Unis et l'Europe. Il y a le CETA entre le Canada et l'Europe qui est entré en vigueur, sauf la partie sur l'arbitrage. Ce sont des accords, il faut quand même le rappeler, qui ne font que se substituer pour ce qui concerne le mode de résolution des litiges à ce qui existe depuis 1965. C'est-à-dire que l'arbitrage entre États et investisseurs étrangers, c'est une convention internationale signée à Washington qui réunit plus de 130 pays, qui existe depuis 1965. Et ça fonctionne bien. Il y a des dérives, il y a des points qui doivent être améliorés. C'est absolument évident. Il y a une semaine qui va se dérouler à Paris, là, 9 avril. La semaine du 9 avril sera là. Ça s'appelle la Paris Arbitration Week, où on va parler de tous ces sujets. Le monde entier va venir en parler. Ça fonctionne bien et surtout, ça se substitue à ce qui existe déjà.
Alors, une autre question que ça pose, une question peut-être un peu plus extérieure et un peu plus en perspective, à savoir finalement, quelle est la réaction aussi citoyenne de la société civile vis-à-vis de ces multinationales-là, qu'elles n'ont évidemment pas élues, qui ne doivent pas se substituer à d'autres acteurs internationaux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez cette idée, Jean-Philippe Robet, d'une sorte de constitutionnalisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit?
Oui, en quelques mots, même si le concept peut prêter à sourire, mais il faut comprendre que quand il y a maintenant 2 siècles, on a commencé à penser la constitutionnalisation des États, on trouvait ça un petit peu farfelu. Il n'en paie parce que les États sont des organisations à l'origine militaire, hein, sont elles qui ont le contrôle des armes et qui sont en charge de la sécurité vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de l'intérieur. Donc l'idée de soumettre le pouvoir d'État à des normes juridiques qui viennent s'imposer à ceux qui détiennent les armes, c'est vrai que ça peut prêter à sourire. Ben, on y est arrivé, on a réussi à soumettre ce pouvoir extraordinaire à des normes juridiques.
Pourquoi? Alors, la même chose diable serait peut-être possible pour les multinationales et les
Pourquoi
grandes entreprises?
Diable, n'arriverions-nous pas à faire la même chose vis-à-vis de ces formes nouvelles de pouvoir que sont les multinationales, c'est-à-dire de leur dire, écoutez, c'est très bien, on constate de fait l'existence de vos pouvoirs, on peut expliciter comment ces pouvoirs sont arrivés. Les normes juridiques provenant des États vous sont difficilement applicables du fait de la mobilité qui est la vôtre. Par contre, on peut imaginer que vous ayez l'obligation de créer des normes auto-centrées, créées par vous-même, qui viennent faire en sorte que votre pouvoir soit soumis à des normes supérieures. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui fait sourire, c'est normal, je le comprends tout à fait.
Oui, ça en fait sourire 2-3 autour de la table.
Il y a depuis une vingtaine d'années un certain nombre de gens qui écrivent sur le sujet, et pas non des moindres, qui sont en train de développer les concepts qui permettent de mettre ça en œuvre. Et un certain nombre de textes, y compris le rapport auquel il était fait référence tout à l'heure, le rapport Nota Senar, ouvre des perspectives qui vont, qui devraient, j'espère, permettre aux entreprises les plus progressistes de mettre en œuvre, d'abord sur une base volontaire, des procédures internes qui peuvent s'apparenter à une forme de constitutionnalisation de leur pouvoir, c'est-à-dire de prise en compte dans la prise de décision des intérêts qui sont affectés. Ce serait un changement extraordinaire.
Et c'est l'heure des nouvelles de l'écho. Arjuna Andrade, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors vous allez nous parler du bras de fer lancé cette semaine par le gouvernement contre les géants de la Silicon Valley.
Tout à fait. On peut même dire que le gouvernement multiplie ces derniers temps les attaques contre les fameux GAFA, multinationales américaines du numérique qui ont acquis une telle puissance économique qu'elles représentent désormais un risque pour l'équilibre de la concurrence en France et en Europe. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a ainsi déclaré sa volonté cette semaine d'assigner Google et Apple devant le tribunal de commerce pour pratiques commerciales abusives. Il accuse les deux colosses du numérique d'imposer des tarifs prohibitifs aux développeurs d'applications proposés sur les portails de ces deux entreprises. Rappelons que Google et Apple se partagent quasi exclusivement le marché des applications de smartphones. Les concepteurs reçoivent ainsi 70% des revenus générés par ces apps et 85% en cas d'abonnement à un service. Google et Apple empochent le reste. C'est ce principe de forfait qui mécontente le ministre français qui semble découvrir la toute-puissance des mastodontes du web qui imposent leurs conditions aux petits développeurs. Il s'alarme aussi du fait que ces deux entreprises écoulent toutes les données issues des applications proposées sur leurs portails respectifs.
Alors, quelles mesures compte prendre le ministre ?
Eh bien, en réalité, une enquête a déjà été lancée par la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes à l'encontre des deux firmes. La direction de Bercy estime ainsi que plusieurs clauses des contrats entre les développeurs et ces magasins d'applications caractérisent un déséquilibre significatif et met en cause les pratiques commerciales agressives des entreprises américaines. Elle demande donc la cessation de leurs pratiques commerciales abusives et leur condamnation à une amende de 2 millions d'euros. C'est désormais au tribunal de commerce de statuer sur cette question.
Le gouvernement s'attaque donc à la toute-puissance des GAFA.
Oui, enfin au moins en parole. Car ces sorties sont excellentes politiquement et stigmatiser l'ogre capitaliste qui vient manger les petites start-up françaises ne peut être que bien perçu par l'opinion publique. On peut cependant s'interroger sur les répercussions effectives de ces déclarations. Ainsi, selon un article du Monde, les conséquences d'une telle procédure pourraient même être défavorables aux petits développeurs qui seraient désormais obligés de négocier de gré à gré directement avec les gens du net.
Alors, le ministre mène aussi une bataille pour la taxation de ces entreprises.
Absolument, le ministre a fait état à plusieurs reprises de sa volonté de revoir l'assiette d'imposition de ces firmes transnationales qui franchissent les frontières et s'affranchissent de l'impôt selon leur bon vouloir. Une volonté portée avant lui par d'autres ministres, mais aussi par des organisations tels que l'OCDE ou l'Union européenne. Autant d'acteurs qui manquent en réalité cruellement de ressources pour lutter contre l'optimisation fiscale intra-européenne, faute de concertation et de collaboration entre les États eux-mêmes. Alors, véritable volonté politique ou agitation tous azimuts pour masquer l'impuissance des États ? On devrait avoir la réponse dans peu de temps avec la présentation de la directive européenne sur la taxation du chiffre d'affaires de ces groupes, qui devrait être présentée dans les semaines à venir par la Commission européenne.
Et aujourd'hui, jeudi, Philippe Mabi, directeur de la rédaction de La Tribune, est parmi nous. Bonjour Philippe.
Bonjour.
La Tribune dont nous sommes partenaires et il vient nous parler du chiffre du jour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chiffre du jour ?
Mais c'est pas un chiffre économique, c'est un chiffre politique, mais assez essentiel. C'est le nombre de voix de majorité qu'il fallait à la chancelière allemande pour constituer enfin gouvernement, 355. En fait, elle a obtenu 9 voix seulement de majorité, puisque sur les 399 députés conservateurs de la CDU-CSU et sociaux-démocrates du SPD qui ont signé l'accord, 35 n'ont pas accordé leur confiance à Angela Merkel. Elle a donc une majorité serrée qui ne lui donne pas les mains libres. Alors, en vérité, c'est pas une première en Allemagne. En 49, Konrad Adenauer avait été élu avec une voix de majorité, la sienne d'ailleurs. Il est resté chancelier pendant 14 ans. Mais clairement, la poussée, on le voit bien comme partout en Europe, des partis extrémistes et notamment la radicalisation aussi d'une partie des partis traditionnels qui sont en perte de vitesse vont limiter les marges de manœuvre du gouvernement allemand. Il y a une usure du pouvoir, une perte d'autorité très clairement d'Angela Merkel qui est atteinte par le syndrome du dernier mandat dans une Allemagne à son tour rattrapée par le populisme, comme on l'a vu aussi en Italie, rendue quasiment ingouvernable. Avec la percée du parti nationaliste alternatif pour l'Allemagne, l'Allemagne est menacée par l'instabilité. Cela n'arrange pas nos affaires en France au moment où Emmanuel Macron espère pouvoir relancer l'Europe avec un plan ambitieux.
Alors Angela Merkel se rend vendredi à Paris pour sa première visite officielle. Que peut-on en espérer ?
Bien, écoutez, le 22 janvier dernier, une date importante, le Bundestag et l'Assemblée nationale ont posé un acte symbolique. Les deux parlements s'étaient réunis en session commune pour adopter une résolution invitant les gouvernements français et allemands à renouveler le traité de l'Élysée, dont on fête l'anniversaire, et à approfondir le partenariat franco-allemand. 6 mois après les élections allemandes et 6 mois avant la fin des négociations sur le Brexit, il y a une fenêtre de tir pour redonner une dynamique à l'Europe dans la perspective des élections de 2019, mais cela risque d'être compliqué. Emmanuel Macron le reconnaît lui-même, si l'Allemagne ne bouge pas, une partie de mon projet est condamnée à l'échec, a-t-il dit récemment.
Que va devenir le projet de réforme de l'Europe d'Emmanuel Macron ?
Ben, je crois qu'il est assez mal parti. Alors peut-être pour les auditeurs, faut-il en rappeler un peu les grandes lignes. Il a été présenté à la Sorbonne fin septembre et c'est un vaste programme. Un nouveau traité de l'Élysée, je l'ai dit, pour aller assez loin, pour intégrer les marchés de la France et l'Allemagne ensemble en appliquant les mêmes règles aux entreprises. Un budget pour une zone euro renforcée, piloté par un ministre des Finances, contrôlé par un Parlement. Une harmonisation de l'impôt sur les sociétés, je ne reviens pas sur le détail, mais c'est évidemment un sujet majeur, on en a un peu parlé sur la question des multinationales. Erasmus, pour que toutes les classes d'âge puissent passer 6 mois dans un autre pays. Bref, l'Europe de la défense, la réforme de la PAC, je passe sur le détail. L'essentiel, à mon avis, de la réforme, c'est celle qui concerne les élections européennes de 2019, sur lesquelles il pourrait y avoir un accord. C'est de faire des listes transnationales en profitant des 73 sièges laissés vacants par les députés britanniques à Bruxelles, ce qui pourrait être une réponse pro-européenne, trans-européenne, à l'Europe. Il est possible que l'Allemagne soit d'accord. En revanche, on sait bien que l'Allemagne est très méfiante, voire très réticente sur toutes les questions de solidarité financière au sein de la zone euro. Bref, Macron a bien raison, prudemment, de parler en septembre d'une feuille de route sur 10 ans, à moins d'un miracle.
J'en profite pour vous demander la une de la tribune, Philippe.
Alors, ça n'a rien à voir, mais un sujet dont j'ai déjà fait une chronique une fois chez vous, c'est le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données. C'est un règlement qui est européen, qui va s'appliquer dans tous les pays, donc la France, à partir du 25 mai, et qui va réguler, donner de nouveaux droits aux internautes sur une question qui est quand même tout à fait essentielle, qui est qu'est-ce qu'on fait de toutes les datas qu'on laisse, les traces qu'on met en ligne. Et donc, il y a de nouvelles régulations que la CNIL va devoir appliquer, notamment la possibilité de mettre des sanctions qui pourraient atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires pour les GAFA, on pense à eux évidemment, les grandes plateformes californiennes, mais pas seulement, toutes les entreprises qui ne contrôleraient pas suffisamment les données. Donc il y a une course de vitesse. Toutes les entreprises, y compris les PME, vont devoir faire attention à leurs data et donc à nos data, car elles sont à nous.
Richie Evans, Freedom, merci Monique, Marie-Monique Robin, Thomas Clay et Jean-Philippe Robé d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle rapidement le nom de vos ouvrages. Marie-Monique Robin, le Roundup face à ses juges publié à La Découverte. Thomas Clay, les modes alternatifs de règlement des conflits chez Dalloz, coécrit avec Loïc Cadier. Et Jean-Philippe Robé, le temps du monde de l'entreprise, globalisation et mutation du système juridique, également chez Dalloz. Vous allez pouvoir écouter nos émissions et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur le site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Demain à la même heure, ce sera Métronomique, présenté par Amaury Chardot, Les Halles 1979-1985, Frime, Fric et Fashion. On se retrouve lundi pour une semaine consacrée aux économies d'énergie.
Mmh.